Angoulême avec la Charente Libre et France Inter. Renseignements, franceinter.com.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Nous vous attendons nombreux pour des sélections et des enregistrements en public en Indre-et-Loire, aujourd'hui à Fondettes, à la salle des fêtes de l'Aubrière, à 18h30. L'entrée est libre et gratuite.
France Inter, la différence.
15h04, là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Bonjour, je m'appelle Yael, j'ai 16 ans. Et un besoin vraiment irrépressible de pousser un coup de gueule, en fait. Tout d'abord sur la loi du port du voile, qui est non seulement d'un irrespect total pour les femmes concernées, mais aussi une bonne grosse entourloupe. L'État se passe bien de préciser qu'en effet, cette loi interdit en règle générale de cacher son visage sur la voie publique, ce qui veut dire suppression d'anonymat pour les manifestants. L'autre point qui me saute aux yeux, et apparemment je suis bien un des seuls, c'est le remplacement du CNDS par un défenseur des droits, le véritable prétexte étant qu'ils sont trop efficaces et que 50% des enquêtes sur les bavures policières aboutissent à des sanctions. Voilà, je constate qu'à 16 ans, j'ai les yeux plus ouverts que beaucoup de Français. La démocratie est petit à petit en train de disparaître. Je vous appelle à vous réveiller.
Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 mai. Nous fêtons l'anniversaire, le 37e anniversaire du déclenchement de la lutte armée du Front Polisario. C'est-à-dire la lutte du peuple sahraoui, d'abord contre le colonisateur espagnol, puis contre le colonisateur marocain. Le peuple sahraoui a accepté un cessez-le-feu en 91, qui devait se conclure par un référendum en 92 ou 93. Depuis, le peuple sahraoui attend et se trouve insupportable que les instances internationales et les grands pays comme la France se moquent de lui, puisque depuis 91, depuis qu'il a accepté ce cessez-le-feu, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination, et le peuple sahraoui est toujours divisé par un mur de 2700 km dans le désert construit par le Maroc. Une partie de son peuple est dans les camps de réfugiés à Tindouf, l'autre partie dans les territoires occupés par le Maroc où il subit une violente répression. Donc en ce 20 mai, je voudrais saluer la lutte du peuple sahraoui et demander que les médias en France qui font un peu le blackout sur cette situation en parlent un peu plus, et en particulier là-bas si j'y suis.
Heureux habitants de l'Auvergne et de ses environs, avons-nous tellement perdu le nord pour que nous puissions plus voir ce qui se passe au sud? Et si on se parlait? Le prochain Café Repère de Clermont-Ferrand aura lieu aujourd'hui, jeudi 20 mai, à 18h02 précise, au Baroque Café, 5 boulevard Trudaine à Clermont-Ferrand, en face de l'école de commerce. Thème à débattre de ce soir, le dialogue nord-sud, un dialogue de sourds.
Je viens signaler que les repères tarnés vont tenir stand à la foire Biocibel à Gaillac, ce dimanche et lundi de Pentecôte. Biocibel, c'est probablement la plus grande foire écologique du sud-ouest, et nous avons décidé de nous y faire voir, parce que même si nous sommes 4 repères à fonctionner sur le tard, ce qui est déjà beaucoup au regard d'autres départements voisins, nous pensons qu'il serait agréable qu'il y en ait davantage, notamment au cœur du département et des villes. Ceci pour éviter de longs déplacements et permettre au plus grand nombre de participer. Ce stand permettra de nous faire reconnaître, bien sûr, mais nous avons surtout envie d'encourager d'autres AMG à en faire autant près de chez eux. Je ne sais dans quelle année sera notre emplacement, mais votre visite à coup sûr nous fera plaisir.
Dis-moi, je voulais revenir sur ce que tu disais au sujet de Toyota aujourd'hui. Comment dirais-je? Les voitures qu'on fabrique, naturellement, tu as raison au niveau social, avec les robots et tout ça. Mais quand on fabrique des voitures ainsi que du matériel neuf, on fait non seulement propre, mais on fait neuf. C'est-à-dire que, par exemple, les tenues vestimentaires des ouvriers qui tournent autour des voitures neuves, ce sont des bleus sans fermeture éclair, sans boutons, on n'a pas le droit aux bagues agressives, on n'a pas le droit aux montres aux poignets, on n'a pas le droit aux gourmettes, on n'a pas le droit aux chaînes autour du cou. Tout ça pour ne pas rayer les peintures et abîmer le matériel neuf. Voilà, c'est tout ce que je voulais te préciser. Tu insistes sur le fait que les Japonaises baladent avec des gants blancs. C'est normal. Même à Aulnay-sous-Bois où j'ai travaillé, c'était pareil. On travaille en chaussons, en bleu spécifique, avec... voilà. Allez, bon courage, change rien.
Bonjour, c'est assez marrant, je suis dans une Toyota Prius, je fais partie des 9 millions de personnes qui ont une voiture avec un problème de frein. Donc j'ai été rappelé par le garage. J'ai donc apporté la voiture au garage. Je pensais devoir la laisser 3 jours pour qu'il me change tout le système de freinage au vu de ce que j'ai entendu dans les journaux. Le garagiste m'a offert un café, espresso, il n'y a peut-être pas de lien entre les deux, et 7 minutes après, 7 minutes, je repartais avec ma Toyota Prius en hybride, en électrique, aller rouler dans les rues de Genève. Comme quoi, l'info, elle passe dans tous les sens et comme on a envie. Merci de continuer à faire des bonnes émissions. À bientôt.
Dans la seule région de Voiron, 3 travailleurs étrangers sont expulsés ou en situation de lettre en application des quotas et des objectifs électoraux du pouvoir. Un Vietnamien a déjà été expulsé dimanche. Un autre est en attente de lettre dans cette annexe de la République qui porte le doux nom de centre de rétention. Un troisième, dans notre petite ville de Rives-sur-Fure, est caché par la population comme au bon vieux temps des chemises brunes. C'est un Arménien de 29 ans. Mais n'est-ce pas, il pourrait être portugais, tunisien, sicilien, un peu noir, un rien jaune et pourquoi pas un zeste polonais, voire vaguement hongrois. Il vit en France depuis près de 10 ans. Il a sa famille en France. Il travaille à Rives, paie des impôts à Rives, joue au foot à Rives, entraîne les gamins à Rives. Il est aimé et estimé de tous à Rives. Son employeur, ses collègues, ses voisins, sa commune, qui vient de le parrainer, tous expliquent et exigent qu'il reste à Rives. Une grande manifestation avec défilé est prévue dans les rues de Rives-sur-Fure demain jeudi de 18 à 19h.
Bah écoute, elles sont super tes émissions sur le Japon, mais maintenant, s'il te plaît, viens, mets-toi en marche. Rejoins le Paris-Nice des sans-papiers qui se rendent à Nice pour y être présent lorsque se tiendra le sommet des chefs d'État africains. C'est sûr, pour les médias, c'est moins glamour que Cannes et ses belles toilettes. C'est moins glamour de montrer leur fatigue, les tendinites, les pieds rongés par les ampoules, les mycoses. Mais ils ne se plaignent pas car ils sont dignes, fiers, déterminés. Et c'est toute une France de solidarité, de fraternité et de générosité qui se mobilise pour soutenir ces hommes et ces femmes qui, pour la majorité parmi ces 90 marcheurs, cotisent à la Sécu, payent leurs impôts, ont les mêmes devoirs que tous les Français, mais n'en ont pas les droits car ils sont sans papier.
Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, moi, je suis une femme de 55 ans qui en a un peu marre d'entendre sans arrêt que les pauvres sans papier ont travaillé, ils sont pas reconnus et tout. Alors, pas reconnus, moi, à 55 ans, j'étais secrétaire de direction, je parle toujours plusieurs langues et je me retrouve comme il n'y a pas de travail parce que je travaille quand même, je travaille avec des personnes âgées, je leur nettoie les fesses, je travaille comme une dingue, après avoir fait des boulots avec des directeurs, et ben je ferme ma gueule parce qu'il n'y a pas de boulot, ben je prends ce qu'il y a. Alors je trouve que les sans-papiers, et ben je suis désolée qu'ils essayent de faire quelque chose dans leur pays, qu'ils essayent de le remonter leur pays, qu'ils essayent de voir politiquement ce qu'ils peuvent faire, et non pas venir envahir la France. Et ensuite, nous, les Français, on n'a pas de boulot. On n'a pas de boulot, donc nous, on doit fermer notre gueule, mais on doit aider les sans-papiers. Alors là, je ne comprends pas. J'en ai assez. Moi, je me suis démerdée. Qui se démerde aussi?
Voilà, on trouve de tout dans la boîte vocale là-bas, si j'y suis. Merci, chers AMG, AMGE. Aujourd'hui, on va prendre de l'altitude. On va prendre de l'altitude et du recul, et du recul historique aussi. Dimanche dernier, sur le plateau des Glières, il neigeait, il faisait froid, et il y avait pourtant 3000 personnes, plus de 3000 personnes, autour d'une commémoration, autour de la commémoration de la résistance, et autour simplement de l'idée de résistance. Tant il est vrai que résister se conjugue au présent. Le plateau des Glières va devenir, et comment est en voie de devenir, un lieu de la résistance, pas seulement à celui qui a essayé de récupérer cet endroit symbolique, sacré pour la mémoire nationale, en tous les cas pour la mémoire de la résistance, pas seulement contre lui, mais pour retrouver ce qui a été cet esprit de résistance à travers le programme du Conseil National de la Résistance, ce CNR, et le texte qui avait été écrit par ce comité et qui était intitulé « Les jours heureux ». Un livre sort qui publie, qui donne ce texte très court, avec des commentaires, des analyses, et comment, peu à peu, s'est détruit, a été détricoté ce programme de la résistance à partir des années 80. C'est une histoire très courte et cette fois-ci très claire, enfin, de ce qui s'est passé depuis 25 ans, 30 ans, et qui continue aujourd'hui. Sous l'apparent désordre de la conduite du gouvernement et de ce président qui est partout, l'hyper-président qui est dans tous les coins, j'allais dire à gauche et à droite, mais oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'obstiné, de glacé et de froid qui est la destruction de tous les acquis du Conseil de la Résistance. Et quelqu'un a vendu la mèche. Il y a toujours des gens qui vendent la mèche et on doit les remercier. Celui-ci s'appelle Denis Kessler. Il est l'ancien vice-président du MEDEF. Et le 4 octobre 2007, il écrivait « Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Le gouvernement s'y emploie. » Ce n'était pas le premier gouvernement qui s'y employait, mais celui-ci poursuit le travail, poursuit le boulot. Et ça se voit, ça se sait. Et des gens luttent contre cette destruction, et 3000 d'entre eux étaient dimanche dernier sur le plateau des Glières. On y était en 2007, juste après que le président y soit passé avec François Ruffin. Et ben on y est retourné dimanche dernier, et nous voilà ensemble aujourd'hui jusqu'à 16h pour un jour heureux.
Avec Annecy, et bien à saluer au passage M. Vincent Auriol, qui, dans un geste de piété à l'égard de la résistance, a tenu à venir s'incliner devant les tombes du cimetière de Morette, où dorment les morts du combat des Glières.
29 mai 1947.
C'est dans ce paysage désolé que les courageux révoltés du maquis des Glières soutinrent le siège de la milice et des SS. Une pierre, désormais, gardera leur nom, ce nom que portent aujourd'hui des veuves et des orphelins. Leçon émouvante qui doit rester au cœur de chaque Français. Leçon, a dit le président de la République, pour chaque jeune de France, à qui la vie héroïque de ses aînés des Glières révélera le grand idéal de discipline et de volonté.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin. Les jours heureux.
Flight number 2, arriving from.
Voilà. Je suis très heureux d'être ici.
Nous aussi.
Voilà.
Nicolas Sarkozy.
Et je trouvais qu'il n'y avait pas plus beau lieu et plus beau symbole pour terminer cette campagne.
4 mai 2007.
Beaucoup était question de la France. Et terminé dans le souvenir de Tom Morel, c'est ce département était le premier qui s'est libéré seul.
Tout à fait, exactement.
C'est à partir des Glières que les Alliés ont compris que la résistance française, ça existait.
Exactement.
Et vous avez compris pourquoi j'ai voulu être là. Hein? Hein? Et je trouvais que dans une campagne présidentielle où, par bonheur, on a beaucoup parlé de la France, où j'ai voulu parler de la France, eh bien je veux terminer par là où j'ai commencé. Ce plateau des Glières, le symbole de résistance française. C'est un lieu de mémoire, mais c'est un lieu d'avenir. Là où on pensait que tout était perdu, des hommes se sont levés, ont combattu quasiment à main nue, parce qu'ils n'avaient pas de bazooka, ils n'avaient pas d'armes lourdes, et ils sont morts en héros. Hein, ça donne du sens à une campagne et un message.
Vous vous sentez une âme de résistant?
Oh non, moi je ne me compare pas à des gens comme le lieutenant Tom Morel. Je veux dire que leur exemple m'inspire. Eh bien voyez-vous, si je suis élu président de la République, je viendrai tous les ans ici, au plateau des Glières, pour honorer la mémoire de Tom Morel.
Il est seul, il est grave. Il réfléchit. La neige, les sapins, les montagnes, les Glières, le plateau des Glières, c'est-à-dire la résistance.
C'est là qu'il est venu se recueillir. Et il faut le remercier de cela. Il faut vous remercier, Monsieur Sarkozy, d'être venu là pour ce qui a été très rapidement perçu et compris comme une grossière opération électorale. C'est comme ça, en tout cas, qu'un certain Walter Bassan, qui habite à côté du plateau des Glières, et qui est un ancien résistant, il vient d'avoir 80 ans au moment où vous foulez ce lieu pour lui et pour d'autres sacrés, c'est comme ça qu'il a vu la chose, une opération électorale grossière. Il passe un coup de fil à son copain, le cinéaste Gilles Perret, qui lui est jeune, il a 38 ans. Et tous deux se demandent qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, contre un tel, j'allais dire, sacrilège. Ils se mobilisent, ils font appel à droite, à gauche, aux gens qu'ils connaissent, à des journalistes, à d'autres résistants, et en très peu de temps, ils vont montrer ce qu'est cette résistance, ce que fut cette résistance et cet esprit de la résistance qui est encore si fortement présent et exprimé dans cette région, sur ce plateau. Ça donnera lieu donc à une première marche, une première réunion en 2007, après l'élection du président de la République. Et puis, chaque année, depuis, une foule se retrouve là, autour de la figure de Stéphane Hessel ou de Raymond Aubrac, qui sont les parrains de cette association pour la mémoire et pour la résistance d'aujourd'hui, bien évidemment, parce que c'est très beau ce qu'on va faire de saluer nos aînés héroïques, mais quelle résistance aujourd'hui ? La résistance se conjugue au présent, le verbe résister se conjugue au présent. Eh bien, ça a été l'enjeu, ça a été les discussions. C'est écrasant, bien évidemment, ces modèles et cette mémoire, mais pas au point de renoncer, bien évidemment, à cet esprit-là qui est un trait caractéristique de notre culture, mais aussi de la culture des hommes et de notre humanité. Le 18 juin prochain, on célébrera l'appel du 18 juin, le début de la résistance en France, qu'elle fut. Eh bien, voilà un haut lieu de cette résistance aujourd'hui jusqu'à 16 heures à travers les Jours Heureux.
Alors, pour revenir un petit peu à notre histoire ici,
Gilles Perret,
le Conseil national de la Résistance avait mis un programme social qui garantissait l'accès à la santé pour tous, le système des retraites, des choses comme ça. Et toutes des choses, un socle qui faisait que finalement on diminuait les inégalités entre les gens. Et finalement, c'est un peu ce socle-là qui est attaqué, y compris par votre gouvernement en ce moment, et qu'on est en train de mettre à mal. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre, par exemple, la venue de M. Sarkozy ici, votre présence ici, la mise en place de votre politique, et de venir un petit peu glorifier l'histoire de la résistance? Vous voyez ce que je veux dire?
Non, je ne comprends pas ce que vous dites, parce que je vous mets au défi de me citer dans l'instant
Bernard Accoyer,
un pays qui a la même protection sociale que la nôtre,
maire d'Annecy le Vieux,
aujourd'hui. Je vous demande de m'en citer un.
Extrait de Walter, Retour en résistance, de Gilles Perret.
Non, certainement, mais est-ce que c'est pas un modèle qu'il faudrait essayer de préserver et aller contre la mode?
Mais qui le préserve? C'est nous. Qui a opéré la réforme des retraites et qui s'apprête à préparer les retraites à la suite, c'est-à-dire au choc démographique? Ce sont les gouvernements que j'ai soutenus. Et donc, si vous voulez, je dois vous dire, avec autant de passion que j'aime mon pays et que je respecte ceux qui l'ont fait, qui l'ont préservé des pires maux, je dois vous dire qu'il ne faut pas avoir un discours politicien sur ces questions. Vous avez raison de dire que la France, derrière De Gaulle, s'était rassemblée pour mettre en place une protection sociale qui soit fondée sur l'égalité. Le combat est mon combat politique. C'est justement de préserver cela. Merci.
Juste une dernière question, non ?
Alors voilà, ça c'est un extrait du film de Gilles Perret qui s'appelle Walter, Retour en résistance. C'est un court extrait. On voit que, à l'occasion de cette commémoration au plateau des Glières, Monsieur Bernard Accoyer ne souhaite pas répondre vraiment et surtout ne veut absolument pas faire d'amalgame entre la résistance et le social d'aujourd'hui, ses propos sur la résistance n'ont absolument rien de politique. Et il n'est pas content du tout de la question qui lui a été posée.
Si vous faites ça, ça se passera pas. Les choses soient claires, hein. Je vous le dis. Si vous faites la Balkane, la résistance, les combats qui ont rassemblé tous les Français et un débat politicien contemporain, mais ça se passera pas bien. Vous avez compris, hein. Je ne laisserai rien passer. Donc je vais vous écrire.
Pour moi, tout est lié.
Je vais vous écrire. Je précise que si je vois mélanger les deux,
Il est beau quand même, hein. Et pas trop jeune et pas trop beau, hein, ça me...
Mais je savais qu'il était jeune.
Pas content, monsieur Accoyer, tel qu'il apparaît dans le film de Gilles Perret, Walter ou Le Retour en Résistance. Mais là, ce qu'on entend derrière moi, c'est beaucoup plus gai. On s'amuse. Et là, c'est le 20 mars 2008. Et le 20 mars 2008, monsieur Nicolas Sarkozy tient sa promesse. Il revient sur le plateau des Glières, comme toujours, avec un nuage de journalistes autour de lui, de journalistes bien rangés, qui disent exactement ce qu'il faut dire et qui filment ce qu'il faut filmer, sauf Gilles Perret, qui filme ces dialogues assez surprenants qui ont lieu dans le cimetière de Morette, où sont enterrés 105 combattants, 87 maquisards des Glières et 17 tombés dans d'autres combats. Il s'agit d'une nécropole nationale, et Gilles Perret filme cette scène extraordinaire qu'on peut voir dans son film, et ces dialogues absolument invraisemblables entre Nicolas Sarkozy et les gens qui sont autour de lui. On lui présente deux républicains espagnols, et le président de la République dit « Oh, en plus je défends les Espagnols, mais les Italiens ne sont pas mal non plus, maintenant que je suis marié avec une Italienne !» Alors il rigole, et puis alors il voit des chasseurs alpins, il dit « Oh, ils sont beaux tous ces chasseurs alpins !» Il y a le général Bachelet qui est à côté de lui, qui est le président de l'association des Glières, qui lui montre un point élevé dans la montagne, et qui lui explique que des maquisards tombés dans une embuscade y avaient été enterrés dans une fosse commune. Eh ben, nous les avons ramenés ici dignement dans le cimetière. Et Sarkozy se fait mine d'écouter, et il regarde, il dit « Ah, c'est quoi cette cascade? Elle est magnifique, cette cascade !» Et ainsi de suite. C'est un petit morceau, un petit bijou d'anthologie dans ce film qui, évidemment, n'a pas plu à tout le monde, mais à certains quand même. Et nous voilà donc, dimanche dernier, chaque année, le président de la République vient sur les plateaux des Glières, et aussitôt après, une foule de Françaises et de Français se retrouvent là, mais pas pour les mêmes raisons.
Il y a eu du progrès. Hein, la première fois que je suis venu en 2007, Walter était grimpé sur un banc. Et maintenant, vous avez construit. Ah, il y a des menuisiers là.
Ouais.
Il y a une vraie tribune avec marqué citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui.
Ah, mais là, maintenant, ça rigole plus. On se professionnalise si on veut rivaliser dans la communication avec notre président de la République.
Et il y a combien de milliers de personnes?
2005, 3000. La route était enneigée ce matin, donc on n'espérait pas tout ça, donc c'est vraiment formidable. Inespéré. Et on a fait une sélection pour voir les plus motivés et les plus robustes.
On nous voilà de retour aux Glières.
Eh oui, de retour.
Donc ici, c'était un lieu de combat armé. En 1944, il y avait 500 résistants qui se trouvaient là-haut, 129 personnes qui ont été tuées par la Wehrmacht. Mmh. Et ce lieu de combat armé, on peut dire que c'est devenu un lieu de combat idéologique entre d'un côté Sarkozy qui arrive en pèlerinage, mmh, et puis vous qui arrive avec d'autres armes que les caméras et les barons de l'UMP. Mmh. Donc il y a les rassemblements, les manifestations qui rassemblent 4000 personnes. Et puis ensuite, toi tu as fait un film, Gilles Perret, qui s'appelle Walter, retour en résistance. Mmh. Il y a le bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Les jours heureux. Tous les moyens sont bons pour mener, là où il y avait une bataille armée, pour mener la bataille idéologique entre
Oui, oui, c'est vrai qu'on essaie de trouver tous les moyens pour réactualiser ce programme et le remettre sur le devant de la scène. Mais c'est une erreur de penser que la résistance n'était qu'un combat armé. C'est contrairement à ce qu'on nous raconte comme histoire de la résistance où ça se limite à un fait d'armes contre les méchants allemands ou éventuellement les méchants français qui avaient collaboré. On a très vite oublié le projet politique et le projet de créer une société meilleure. Et c'est ce qu'on essaye de remettre au goût du jour. Donc nous, on estime que le combat des Glières et le combat de la résistance générale, ce n'est pas qu'un fait d'armes. C'était aussi un combat politique pour restaurer une société meilleure.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Maintenant, on va rentrer dans la salle de Tom Morel et puis on va faire un débat sur la déconstruction du programme du Conseil national de la résistance, finance, la sécu, et puis les retraites, et puis les services publics, enfin tout ce qui est issu finalement du programme du Conseil national de la résistance.
Voilà, sautez sur ce bouquin si vous voulez comprendre dans quel monde nous vivons, dans quelle France nous vivons, entre ce texte, effectivement, du Conseil national de la résistance, le programme du Conseil national de la résistance, et comment il a été écrit, comment il a été mis en œuvre au lendemain de la guerre, et comment il a été ensuite détruit, déconstruit, et comment aujourd'hui le gouvernement actuel accélère sa démolition. Cet citoyen résistant d'hier et d'aujourd'hui, donc cette association qui s'est constituée depuis 2007. Et puis, ça c'est le samedi, et le dimanche, il y avait sur le plateau, eh bien, des prises de parole d'anciens résistants, et on résiste pas au plaisir et à l'honneur de vous en faire rencontrer quelques-uns, à commencer par Léon Landini.
Léon Landini, bonjour. Vous êtes né en 1926, engagé très tôt dans la résistance auprès de votre père et de votre frère dans une compagnie de FTP-MOI. Vous avez reçu de nombreuses distinctions, dont la Légion d'honneur.
Officier.
En 1942, vous avez participé à un sabotage de la voie ferrée qui relie Saint-Raphaël à Cannes, provoquant ainsi le déraillement d'un train de marchandises allemande, et ça a été le premier d'une très longue série. En juillet 1944, vous avez été arrêté à Lyon par la milice française après avoir participé à des actions de résistance ayant entraîné la mort d'une trentaine d'Allemands. Vous avez été torturé et interrogé par Barbie lui-même et vous n'avez jamais parlé. En août 1944, vous avez profité de la panique des Allemands et de la débâcle qui arrivait pour vous enfuir et rejoindre les combats.
Je vous remercie. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi de prendre la parole en ce haut lieu de la résistance armée que fut le plateau des Glières. Je tiens à rappeler que quelques-uns des rescapés des Glières ont par la suite rejoint le bataillon FTP MOI Carmagnol à Lyon et que j'ai eu le plaisir de combattre à leur côté. Je me suis engagé en résistance en 1941. Cela fait 69 ans que je milite. Au crépuscule de ma vie, c'est avec une grande fierté que je me penche sur mon passé. Même en le regardant avec un œil critique, non, je n'ai rien à regretter. En toutes circonstances, je me suis toujours trouvé du côté des plus pauvres, des malheureux, des exploités, des anticolonialistes, des antiracistes. En un mot, toujours du bon côté de la barricade. À 84 ans, malgré l'âge, la maladie et la fatigue, et avant que j'aie dû boucler mes valises, comme dit une chanson de Jean Ferrat, je garde encore en moi ce même idéal, cette même flamme, cette même volonté de changer ce monde qui permit à beaucoup de mes camarades de tomber face à l'ennemi en criant « Vive la France, vive la liberté, vive le Parti communiste !» Ils sont tombés animés par un idéal qui permettait à un homme et une femme de se sublimer et de se sublimer à son insu. Ils sont tombés convaincus qu'ils donnaient leur vie pour un monde meilleur. Ils combattaient pour libérer la France, pays de la liberté et des droits de l'homme, la France de la Révolution, la France de la Commune, la France, le seul pays au monde dont les bâtiments publics portent ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ces raisons que nos parents, fuyant les persécutions fascistes de Mussolini, d'Hitler, Franco et consorts, avaient choisi ce pays pour s'y réfugier. Internationaliste, c'est aussi pour ces raisons que sur notre drapeau flottait le drapeau tricolore de Valmy. Drapeau que nous n'avions pas eu à l'époque, la sottise d'abandonner aux pétainistes qui prétendaient usurper la nation, comme aujourd'hui certains l'abandonnent au Front National. Mais pour nombre d'entre nous, héritiers de la Commune, admirateurs de Lénine, de la révolution d'octobre de l'armée rouge qui a écrasé l'armée nazie à Stalingrad, nous arborions aussi le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau. Nous combattions parce que nous étions certains que nous n'allions pas mourir pour rien, que les survivants sauraient porter haut le drapeau de la liberté, de la justice et de la solidarité. Oui, mesdames et messieurs, je suis fier de 52 de mes frères de combat qui, ayant subi d'effroyables tortures, sont morts dans les culs de Basse-Fosse, de la police, de la milice ou de la Gestapo, sans avoir lâché un seul mot à Barbie et à ses sbires. Pour certains, nous n'avons jamais retrouvé leur corps. Oui, je suis fier de ces hommes et de ces femmes qui, pour la défense de leur idéal, ont su supporter l'insupportable. Fier aussi de mon ami Raymond Greenstein, qui, à l'âge de 20 ans, a préféré se faire sauter avec une grenade en entraînant avec lui dans la mort les soldats nazis qui l'entouraient plutôt que de se faire prendre vivant. Fier également de mon camarade Simon Fried, lui aussi âgé de 20 ans, qui, condamné à mort par les tribunaux des sections spéciales, a été exécuté le 4 décembre 1943. Il refusa, en arrivant devant la guillotine, que ses gardiens leur soutiennent en leur disant « Vous allez voir comment c'est mourir un jeune communiste ». Il se présenta tout seul devant la machine à couper les têtes. Au moment précis où le couperet tomba, tous les internés de la prison Saint-Paul à Lyon, debout dans leurs cellules, lui rendirent un vibrant hommage en chantant la Marseillaise et l'Internationale. Il arrive parfois qu'on me reproche d'avoir l'outrecuidance de la part d'un ancien résistant, déjà encombrant en tant que tel, de ne pas me contenter de n'être qu'un ancien résistant. Je suis comme les vieux mulets des Alpes, plus rétif encore en devenant vieux. Il nous faut défendre notre République une et indivisible, défendre notre industrie, nos universités, nos laïcités, et même y compris notre langue, mise à mal par les tenants du tout anglais. Notre devoir est de défendre notre souveraineté nationale et de chasser de notre horizon ces coalitions d'intérêts privés qui menacent notre devenir. Pour défendre tout cela, entrons en résistance, et le temps est venu de démontrer que le peuple français ne sera jamais un peuple d'esclaves. Hommage et respect à tous ceux et à toutes celles qui ont tout sacrifié pour que les survivants soient heureux. Vive la résistance d'hier et que vive la résistance d'aujourd'hui. Je vous remercie.
Ah oui.
Radio Diffusion Française. Le comité d'action militaire du Conseil national de la Résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adresse à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement bâties suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat.
Donc, monsieur Landini.
Oui.
Vous avez venu intervenir, vous avez tellement la pêche qu'il a fallu baisser le son de tous les micros.
C'est pourtant que je m'étais reculé, hein.
Vous, votre histoire avec la résistance, ça veut commencer quand ?
Moi, la résistance, elle a commencé, disons, dans ma jeunesse, puisque mon père, ayant fui l'Italie, poursuivi à coups de fusil pour les fascistes, à trois reprises, il est venu en France,
toute la famille a toujours milité depuis toujours. Moi, j'étais gamin, Marcel Cachin, Jacques Duclos m'ont tenu sur les genoux. La résistance au fascisme. Bien. Ensuite, j'avais un frère qui avait 12 ans de plus que moi. Et mon frère avait été responsable des jeunesses communistes. Il a fait 45 jours de prison à Draguignan, comme communiste. Il est sorti, il a été relâché en décembre 40. Il est allé à la gare de Fréjus-Page, à la gare de Triage. Il a fait dérailler 8 wagons de marchandises qui partaient pour l'Allemagne. Ça figure parmi les tout premiers déraillements. Mais,
donc là, au tout début de l'occupation, il fait dérailler
8 wagons de marchandises. Seulement, comme il était responsable des jeunesses communistes et qu'il sortait de prison à Saint-Raphaël, les bruits ont commencé à courir, ça y est, Roger est arrivé, il va finir pour nous faire avoir des emmerdements avec les Boches. Et le responsable régional du Parti communiste lui a dit, Roger, faut te calmer, tu vas retourner en prison. Et il a fallu lever le pied, mais ce qui me fait dire souvent à des gaullistes, j'ai dit, moi, j'ai vu certainement beaucoup plus de Croix de Lorraine que toi contre les murs. Parce que sans Saint-Raphaël, Fréjus sur les environs, on allait avec du minium rouge, on faisait la faucille et le marteau, et on faisait la Croix de Lorraine à côté. Parce que sinon, on savait tout de suite que c'était rien que Roger et les siens qui l'avaient fait.
Pour brouiller les pistes, vous mettiez un peu de gaullisme dans votre communisme.
Moitié-moitié. On mettait les deux. Moi, à l'époque, j'ai commencé à mettre les premiers tracts, j'avais 15 ans. À 16 ans et demi, avec deux autres copains, on est allé faire dérailler un train de marchandises qui remontait sur l'Allemagne du côté d'Aguin, entre Saint-Raphaël et Cannes. Le 12 octobre 1942, j'avais 16 ans et demi.
Comment on fait dérailler un train alors?
Eh bien, on déboulonnait un rail. On déboulonnait un rail, on le déplaçait. C'était le moyen le plus simple et le plus sûr, parce que même à Carmagnol, où on était déjà beaucoup plus spécialisé, à Carmagnol, je dois avoir fait une trentaine de déraillements. Carmagnol, c'était Lyon. Au début, il y a eu des essais qui ont été faits avec des explosifs, etc. Puis on a fini par se rendre compte que le meilleur moyen, c'était de laver un rail. Et que là, il ne passait plus. Il n'y a plus de train qui passait. Alors,
c'est une banalité pour vous, 30 déraillements comme ça
Je dis que c'était devenu une opération routinière. Quand on avait remarqué qu'il y avait des trains très chargés, souvent, ils passaient derrière des trains de voyageurs. C'est-à-dire qu'on commençait à dévisser leur rail. Et quand le train de voyageurs était passé, on enlevait le rail pour que le train déraille.
C'était pour ne pas vous faire dérailler un train de voyageurs?
Non, surtout pas. Au total, je dois participer à une quarantaine de déraillements. Que moi, personnellement, je n'ai jamais dévissé un rail. Hein.
Qu'est-ce que vous faisiez alors?
On se couchait le long de la voie, mitraillette au revolver à la main. Et il n'était pas question qu'on laisse passer quelqu'un parce qu'il y avait des patrouilles allemandes qui passaient. Si les types se faisaient attraper, ils se faisaient tous descendre. Donc, il fallait assurer la protection. Voir un déraillement de près, c'est affolant. Hein. On entend le train arriver, et puis d'un seul coup, des étincelles sur toute la longueur du train, mais comme illuminé en pleine nuit. On peut regarder la montre, on voit l'heure. Hein. Ensuite, le silence au complet, à part le bruit de la locomotive, le gaz qui fuyait. Voilà, un déraillement un soir. Mais ce qui a le plus marqué les camarades, d'abord, que ce soit clair, tuer, ça n'est pas humain. Quand on a été élevé avec l'amour du voisin, avec le souci de créer un monde parfait, utopique mais parfait, où les gens, ils s'aimeraient tous, n'est-ce pas? Et aller tuer un homme, en pleine ville, en plein jour, qui ne vous a rien fait à ce moment-là, c'est quelque chose d'épouvantable. Et pourtant, il n'y avait pas d'autre solution, il fallait le faire. Et on les a tués en plein Lyon, comme ça, visage découvert, et... Des Allemands, une fois un milicien. Le premier Allemand qui a été abattu après le débarquement du 6 juin dans Villeurbanne, je l'ai abattu avec une femme. Parce que quand on parle du rôle des femmes, ben, il y avait la copine qu'on appelait Simone et qui lui a tiré deux balles à bout portant à cet Allemand. C'était un aviateur. J'ai souvent pensé, parce qu'il y a une chanson qui dit « Accommodite sur la guerre » et qui dit à la fin... Il a tué un gars, puis il a vu le portrait. J'ai vu le portrait en couleur d'une femme vieille et bien mise qui souriait avec douceur. Et tant que cela doit durer, je vais mourir le jeune homme. Et la pauvre femme pleurait. Et moi, chaque fois, j'ai des frissons parce que je me dis, ces gens-là qui avaient réussi à envoyer leurs enfants en France parce qu'ils ne risquaient rien, et elle recevait de France que son fils avait été abattu. Je dis que c'est inhumain de faire ça.
C'est-à-dire, vous pensiez à la mère de l'Allemand,
à la famille. À la mère, à la femme, à la fiancée, que sais-je. Je dis, c'est épouvantable, et c'est pourquoi je suis un ennemi forcené de la guerre. On m'a dit, est-ce que vous avez la haine des Allemands? Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai été élevé que dans l'amour. Et c'est Manouchian, au moment d'être fusillé, qui a dit « Je meurs sans haine à moi pour le peuple allemand. » Je dis « Je n'ai de haine contre personne. Je suis l'homme à donner de l'amour. » Mais pour défendre la justice et la liberté, ben, s'il faut tuer, on tue. En 42, lors de l'évasion de l'invasion de la Côte d'Azur, par les troupes d'occupation italiennes, nous étions à table, de soir, on était tous là, tête basse, et mon père, il dit « Les enfants, on vient de tourner une page de la résistance. Aujourd'hui, on entre dans un autre monde. » On l'a regardé, on attendait qu'il continue. Et mon père dit, oui, j'ai quitté l'Italie poursuivi à coups de fusil par les fascistes et aujourd'hui, les troupes de Mussolini sont ici. Et ces troupes-là, on ne les fera pas partir avec des tracts. Ces troupes-là, on les fera partir en les tuant, en leur faisant comprendre que ce n'est pas leur pays qu'ils doivent fuir. Il faut maintenant qu'on tue les Italiens. Et mon père, il parlait avec le français comme ça, hein. Il faut qu'on tue les Italiens.
Donc on disait en italien qu'il fallait tuer les Italiens.
Bisogna ucciderli. Non è possibile, sinon non comprendono. Alors ma mère a dit, mais attends, Aristide, il y a peut-être mes neveux qui sont dans l'armée italienne. Et mon père lui dit oui. Et ils viennent ici, ils portent l'uniforme de Mussolini. Moi, en 15, j'étais contre la guerre. J'ai déserté. Il faut que je rappelle quand même de quelle race je suis. Mon père a été arrêté comme déserteur. Quand il est passé au tribunal, le président du tribunal, il dit, monsieur Landini, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il dit, sachez, monsieur le président, que je suis d'une trempe qui rompt mais ne plie pas. Et si demain j'avais l'honneur d'être dans le tribunal du peuple, pour les gens de votre espèce, seraient tous la peine capitale. Il en a pris pour 20 ans. Mon frère a fait pareil. Mon frère a été torturé. On lui a fait boire un litre de pétrole, manger un kilo de sel. On lui a mis un casque sur la tête. On lui a fait exploser tout le cuir chevelu. Il est resté 6 heures dans le coma. Quand il a repris connaissance, il a simulé la folie. Ils l'ont fait visiter par des spécialistes. Et les spécialistes disaient, il ne redeviendra plus jamais normal. Déporté en Allemagne. Ils se sont évadés à Dijon. Moi j'étais dans les Maquis Limousins. Ils m'ont rejoint. Moi, j'avais 18 ans, mon frère, c'était un vieux. Ça fait peut-être sourire, il avait 30 ans. Et c'était un vieux. Et on lui a dit, tu sais, Landini, à Lyon, il y a les FTP Mouilly, il y a beaucoup de jeunes, ils auraient besoin d'un camarade plus mûr politiquement. Est-ce que tu veux y aller? Marié, deux gosses. Il venait de sortir de prison. Il dit, si vous me dites qu'il faut y aller, ben j'y vais. Mon frère est parti à Lyon, je suis allé le rejoindre, c'est là que j'ai été arrêté, le 25 juillet, enfoncement de la boîte crânienne, vertèbre écrasée, nez écrasé, couille écrasée. Mais à l'exemple de mon père et de mon frère, je n'ai pas dit un mot. Pour massacrer, ils ont tué un juif devant moi, il a été tué, ils vomissaient le sang. Il tapait. Barbie est venu, j'étais couché, il m'a tourné avec le pied, il m'a frappé, il m'a tiré deux ou trois gifles, il m'a dit qu'ils allaient me faire passer à la baignoire. Je ne savais pas ce que c'était que la baignoire. Moi, j'avais compris, ils vont me faire passer au blé noir. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cet engin? Mais je suis enthousiasmé par ce que j'ai vu aujourd'hui. Je repars avec un cœur gonflé comme ça, en me disant, tout ce qui a été fait n'est pas perdu.
Je voudrais revenir sur une période. Ah, il doit prendre l'avion?
Il y a pas à manger.
D'accord.
Bon. On s'arrête en bas pour prendre un sandwich.
Je te demande un moment. Bon.
Merci. On peut l'avoir à Paris, il habite à Bagneux.
D'accord.
On pourrait y aller.
J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant m'apparaisse ce dont je rêvais quand j'étais gamin. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste, ni me résigner comme un homme aigri. À qu'il vienne au moins le temps des cerises, avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
Odette Nilez, bonjour. Vous êtes née en 1924. Votre engagement commence très tôt, à l'âge de 15 ans, 1940. Le 13 juillet 1941, vous manifestez sur les grands boulevards à Paris. Vous recommencez le 13 août 1941. Et là, 17 jeunes gens sont arrêtés, 16 garçons et une fille, vous, Odette Nilez. Vous êtes alors emprisonnée à La Roquette, à Paris, pendant 10 jours. Vous êtes condamnée à mort, puis cette peine est commuée en peine de prison. Vous serez alors déportée et déplacée au camp de Choiseul à Châteaubriant en septembre 1941. Et c'est là que vous allez rencontrer Guy Moquet, avec qui vous allez nouer une relation privilégiée, qui sera exécutée le 22 octobre 1941 à Châteaubriant. Après les camps d'Incourt, Gaillon, Lalande et Mérignac, vous réussissez à vous échapper en 1944 et là vous rejoignez les FTP à Bordeaux. En 2007, vous vous êtes insurgé contre la récupération du nom de Guy Moquet.
Mesdames, Messieurs, chers amis, vous qui restez, soyez dignes de nous, les 27 qui vont mourir. Cette phrase gravée sur les planches d'une baraque, quelques instants avant d'affronter le peloton d'exécution, a été écrite par Guy Moquet, 17 ans et demi, fusillé le 22 octobre 1941 à Châteaubriant, Loire-Atlantique. Dans cette période de tension que nous vivons, le message à transmettre est qu'aucune société ne peut vivre sans référence à des droits et des valeurs pour lesquels nos fusillés, nos déportés, nos maquisards ont donné leur vie. Faisons nôtre cette phrase de Lucie Aubrac, « Résister se conjugue au présent ».
Autre récupération, autre imposture, celle de l'affaire Guy Moquet qui restera, je pense, dans les annales. Sauf que, comme pour le plateau des Glières, eh bien, il y a eu de la résistance contre cette récupération. Et voici, c'était dimanche dernier, sur ce plateau des Glières, Odette Nilez qui fut la petite amie de Guy Moquet et qui n'a pas cessé d'être aussi une résistante.
Je peux vous déranger pendant le repas ou pas? Alors, Mme Nilez, là on est à l'auberge des Glières, au-dessus du plateau. Le plateau, vous êtes intervenu tout à l'heure pour rendre hommage aux résistants en général, mais plus particulièrement à Guy Moquet. Guy Moquet qui était votre compagnon ou votre copain, votre...
Non. Quand je suis arrivée au camp de Châteaubriant, nous étions 48 femmes venant de la prison de La Roquette. Et on s'est retrouvés dans un camp qui était séparé en trois, camp P1, camp P2, camp P3. Et un groupe de jeunes. Alors nous, on était 6 filles de moins de 20 ans, et il y avait un groupe de jeunes, en face ils étaient 22 environ, et on bavardait. Alors à la barrière, on bavardait, on ne parlait pas de choses politiques, bien sûr. On bavardait des derniers films qu'on avait vus.
Vous draguiez, quoi?
Comment? Oui, mais je vais vous dire, à l'époque, on n'était pas au courant comme des choses de la vie, vous voyez. On ne connaissait pas certaines choses, nos parents ne nous avaient pas éduqués en ce sens. Et moi, vous voyez, j'avais pourtant une vie libre, je partais camper, etc. Mais j'étais vraiment très naïve. Et alors les gars nous sortaient des blagues salaces, et on ne comprenait pas. Alors on rentrait dans la baraque, puis on disait à nos camarades, elles avaient toutes 40, ça allait jusqu'à 60 ans, on leur expliquait ce qu'on nous avait dit. Les filles foncé à la barrière et elles allaient expliquer les garçons, nos jeunes garçons. Puis, finalement, vous savez, à force de parler comme ça, un jour, Guy m'a fait une déclaration. Mais à part, parce que devant les autres, on ne faisait pas les choses comme ça, puis on ne voulait pas se faire, qu'on se moque de nous dans les baraques.
Devant les autres, on faisait les hommes, on racontait des blagues salaces, et puis tout ça, on se moquait des filles, et tout ça. Et puis par derrière, on, tout seul, on faisait sa déclaration d'amour. Quoi.
Voilà, voilà. On en est resté à ce stade, parce que moi, je disais toujours à Guy, je dis, tu sais, on n'a pas le choix, alors on verra plus tard. La veille du 22 octobre, j'étais pas partie bavarder à la barrière, j'étais en train de faire un cours. Et alors, il y a une camarade qui était la sœur à Jeannette Vermeche, l'un des dirigeants du Parti communiste, qui avait mon âge, elle vient, puis elle dit, oh, tu sais, il y a Guy, il veut absolument me voir. Alors, j'ai dit, dis-lui que j'ai pas le temps. Oh, elle dit, viens, il a l'air vraiment, vraiment, il tient absolument à ce que tu viennes. Je suis allée à la barrière, on a bavardé comme d'habitude, un point c'est tout. Et le 22 octobre, quand on est venu les chercher, Guy, on les a enfermés dans une baraque. Guy a écrit la lettre à sa mère, à ses parents, et il m'a fait un petit mot sur du papier plume, en disant, ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Ce que je regrette, c'est d'avoir pas eu ce que tu m'as promis. Oui. C'était un patin, mais je savais pas ce que c'était.
Et vu comment ça s'est terminé, le 22 octobre, vous n'avez pas regretté de ne pas lui avoir donné plus tôt le patin?
Ma foi, si, peut-être.
Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande à toi, en particulier, petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis, et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et René. Quant à mon véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, c'est Serge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Guy.
C'est celle-là. J'ai conservé cette lettre 60 ans et c'est pourtant écrite sur un papier plure. Je l'avais gardée précieusement, vous voyez, je ne l'avais communiquée à personne, presque à personne. Parce que cette lettre m'avait été remise par un gendarme. Un gendarme, le jour où ils ont été fusillés. Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. Mille grosses caresses de ton camarade qui t'aime, Guy. Grosse bise à Marie et à toutes. Mon dernier salut à Roger, Rino, la famille et Jean Mercier.
Le déclencheur ici, aux Glières, bah c'est la venue du candidat Nicolas Sarkozy juste avant son élection, à 48 heures avant le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2007. Dans le même genre, il y a eu aussi la lettre de Guy Môquet qui voulait qu'elle soit lue dans toutes les écoles. Vous, quand Nicolas Sarkozy s'est saisi de cette lettre de Guy Môquet...
Il s'est servi. À la cascade du Bois de Boulogne, il y avait un rassemblement. Et j'avais été invitée, mais le lendemain de la cascade, le lendemain, j'ai reçu l'invitation le lendemain. J'étais pas la seule, parce que la fille Jean-Pierre Timbaud, elle me téléphone, elle me dit, t'as vu, on est invité à la cascade du Bois de Boulogne, mais c'était hier. Ça veut dire, et le cachet de la poste faisant foi, comme quoi la lettre était partie après. C'était la cascade du Bois de Boulogne, c'est les jeunes qui ont été fusillés à cette cascade du Bois de Boulogne. C'est là qu'ils s'étaient rendus à la cascade du Bois de Boulogne. Il a fait lire cette lettre de Guy Moquet. Et cette lettre de Guy Moquet, il a demandé qu'elle soit lue dans toutes les écoles, dans tous les collèges, lycées, etc. Mais cette lettre, elle n'avait pas de sens dans la mesure où on n'expliquait pas les valeurs pour lesquelles ce jeune avait été arrêté, voyez-vous. Je vais vous dire honnêtement, même, un jour, je reçois un coup de fil du service culturel de M. Sarkozy, qui me demande de venir lire la lettre de Guy Moquet avec lui, au lycée Carnot.
Vous alliez enfin être en bonne compagnie. Là, vous êtes au milieu de gauchistes.
Voilà. Alors, je lui ai téléphoné en lui disant que je ne me rendais pas pour la bonne raison, que je ne comprenais pas que M. Sarkozy n'ait pas mis en les valeurs de Guy Moquet, n'ait pas expliqué pourquoi il avait été arrêté, etc.
C'est-à-dire qu'il n'ait pas dit que Guy Moquet était communiste, voilà, que son idéal c'était l'égalité entre les hommes, qu'il était contre les puissances d'argent.
Voilà.
Vous auriez voulu que Nicolas Sarkozy explique tout ça.
Qu'il dise exactement pourquoi il était, non, pas spécialement.
Esprit de résistance, merci à tous. C'était donc dimanche dernier sur le plateau des Gruyères. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Martine Orange, Jean-Luc Porquet, à toute l'équipe des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. Je rappelle le titre de ce bouquin, Les jours heureux du collectif donc citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui. C'est à la découverte. Et puis Fakir qui consacre un dossier de son numéro de mai, du mois de mai au CNR. Ce que nos papis ont construit, ce que nos élites ont démoli. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Mathias Allion et Basile Bocquer. Coye Nguyen et Raphaël Moutère de réaliser cette émission assistée d'Agnès Le Bot. Et Céline Rouzet attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Ok tout le monde, antenne pour EDF Pro dans 3 secondes. Alors on reste efficace, Luc, ton message est prêt?
C'est pro.
Attention, maintenant.
Quand on est pro, l'efficacité est une nécessité, alors autant la renforcer. Avec les offres électricité et gaz naturel d'EDF Pro, vous bénéficiez d'un conseiller et d'une facture unique pour simplifier la gestion de vos énergies.
Nat, top numéro.
Renseignez-vous au 0810 333 776. EDF, changez l'énergie ensemble.
Mention.
Bien sûr, prix d'un appel local sauf sur coût imposé par certains opérateurs. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ok, 30 secondes pile, très efficace, très EDF Pro.
À demain, 15h pour la basse. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
Il n'y aura pas d'apéro géant dimanche sur le Champ de Mars, c'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris. Le préfet avait décidé dès hier d'interdire la consommation d'alcool sur place, mais l'apéro en soi n'était pas interdit. On ne sait pas encore précisément pourquoi et qui a pris la décision d'annuler ce rendez-vous fixé sur Facebook. Des armes et des explosifs ont été retrouvés dans leur voiture abandonnée. Les malfaiteurs qui ont ouvert le feu ce matin sur la police dans le Val-de-Marne s'apprêtaient, semble-t-il, à commettre un hold-up. Ils étaient cagoulés et habillés de noir, selon certains témoins. Ils ont tiré sans ciller sur la première patrouille qui voulait les contrôler, puis ont pris la fuite. Quelques minutes plus tard, ils ont de nouveau ouvert le feu en direction cette fois de policiers municipaux. Une policière est morte, un automobiliste touché au poumon est dans un état grave, mais sa vie n'est pas en danger. Selon un dernier bilan, 5 autres personnes ont été blessées par des coups de feu ou des éclats de verre. Nicolas Sarkozy annonce une modification de la Constitution pour y inscrire dans la durée la nécessité de redresser les finances publiques de la France. Le chef de l'État l'a annoncé ce matin dans le cadre de la conférence sur les déficits qui se tenait à l'Élysée. Il a confirmé par ailleurs la réduction sur 3 ans de 10% des dépenses de l'État, 5 milliards d'économies sur les niches fiscales et sociales, mais pas de hausse générale des impôts. Il annonce enfin un gel des dotations de l'État aux collectivités locales et un effort supplémentaire pour freiner l'évolution des dépenses de santé. L'euro disparaîtra d'ici 10 ans si Français et Allemands ne s'entendent pas sur la création d'un ministère des Finances européen. C'est le point de vue de l'économiste Jacques Attali qui s'exprimait sur France Info. Il dénonce la fantaisie actuelle où, je cite, « chacun fait ce qui lui plaît et où tout le monde ment à tout le monde ». À l'ONU, un vote en faveur de sanctions contre l'Iran serait imminent. Nous avons une majorité en vue, vient de déclarer le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. 3 pays seulement sur 15 seraient encore réticents. L'armée a pris le contrôle de l'ensemble du centre-ville de Bangkok. Aucun affrontement sérieux n'est plus signalé et les incendies sont éteints. Mais le gouvernement a tout de même reconduit le couvre-feu pour 3 jours. Au total, 14 personnes sont mortes et 91 ont été blessées lors de l'assaut final contre les chemises rouges. Et puis le cycliste américain Floyd Landis reconnaît s'être dopé de manière systématique pendant plusieurs années. Il avait été déchu de sa victoire au Tour de France après un contrôle positif. Dans des mails adressés aux autorités du cyclisme, il détaille ses pratiques et mouille Lance Armstrong, ainsi que plusieurs sportifs américains qu'il accuse clairement d'être impliqués dans des affaires de dopage.
France Inter présente Copie conforme, le nouveau film d'Abbas Kiarostami avec Juliette Binoche et William Schimmel. Dans les rues de Toscane, un homme et une femme jouent la comédie de l'amour. Copie conforme, en compétition officielle au Festival de Cannes, actuellement au cinéma. Retrouvez William Schimmel dans On aura tout vu, demain à 17h. France Inter, partenaire de la Fête de la Nature au Jardin des Plantes à Paris, les 22 et 23 mai. De nombreuses activités pour petits et grands, parcours, spectacles, débats et animations. Retrouvez le détail du programme dans l'émission de CO2 Mon Amour, samedi 22 mai à 14h. Renseignements, franceinter.com. Cette année,
Stéphane,
le Fou du Roi fête ses 10 ans.
Faut qu'on parle.
À partir du 24 mai sur France Inter, Stéphane Bern vous invite à souffler ses 10 bougies avec 4 émissions spéciales anniversaire.
Cadeau de Stéphane.
Et mardi 25 mai à 22h30 sur France 2.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Retrouvez en images les réjouissances de la soirée spectacle concoctée par toute l'équipe du Fou du Roi.
Je ne pouvais rêver meilleur cadeau d'anniversaire.
Le Fou du Roi fête ses 10 ans.
Mesdames et messieurs,
à partir du 24 mai à 11h sur France Inter.
Allez, je vous accompagne et à très vite. Merci.
Mardi 25 mai à 22h30 sur France 2 et dès à présent sur franceinter.com. France Inter, la différence.
En 16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. La musique, c'est une construction, un art presque mathématique, mais aussi et surtout le support de sentiments très variés. Vous allez pouvoir en juger en comparant deux mazurkas de Chopin. En voici une en ré majeur, elle est enjouée, ensoleillée, et j'ai envie de dire, on entendra une autre après qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Thank you. Frédéric Chopin, mazurka en ré majeur, interprété par Martha Argerich. Et quoi de commun, à part la mesure à trois temps, les accents un peu décalés, avec celle qui vient maintenant, cette mazurka en fa dièse mineur, comme préoccupée, angoissée, où l'inquiétude plane sans son François.